mouvement étudiant patine. Le 20 mai, Cohn-Bendit part pour l'Allemagne.
Je me retrouvais devant un personnage historique qui m'avait coupé de mon origine politique. Je devais remplir un rôle politique que je ne voulais pas assumer comme ça.
Extrait du documentaire Mai 68, 10 semaines qui ébranlèrent la France. Excellent documentaire de Patrick Rothman, sorti en 98. Bonjour Patrick Rothman.
Bonjour.
Quel miracle, vous êtes avec nous cet après-midi, comme ça vous surgissez. Patrick, vous êtes auteur, scénariste, réalisateur. On se souvient de vos documentaires sur De Gaulle, Mitterrand, Sarkozy, Hollande, mais aussi la résistance, la guerre d'Algérie, le mur de Berlin, le goulag, et donc sur Mai 68. Vous avez d'ailleurs écrit également un livre là-dessus, Mai 68, raconté à ceux qui ne l'ont pas vécu, et co-réalisé avec Virginie Linhart le documentaire Mai 68. 68, 10 semaines donc qui ébranlèrent la France. Ça tombe bien puisqu'ici, mai 68, à part notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière qui faisait partie du 7e bataillon de CRS de Nanterre, on l'a pas vécu. Depuis quelques années.
Il a vécu de l'autre côté.
Bah, il était de l'autre côté de la barrière, lui. Alors, depuis quelques années, mai 68, on va dire la génération 68 vit ce qu'on appelle désormais un backlash. L'héritage, d'abord vu comme largement positif, est devenu pour certains négatif. Vous, en 2024, Patrick Rothman, quel regard vous portez encore sur mai 68 ?
Eh bien, c'est un regard ambivalent. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas considérer 68 comme un bloc intangible qui dégagerait une vérité. Il y a beaucoup de vérités de 68. Et en tout cas, c'est un mouvement qui est compliqué à analyser. Je pense qu'il faut se dégager de la gangue idéologique des interprétations politiques qui ont été faites après et revenir en fait à l'histoire, à ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est survenu, dans quelle France, dans quel monde, parce que la dimension internationale est tout à fait capitale, et d'essayer de comprendre les phénomènes. Donc je dirais que les conséquence de 68, ou la traînée de 68 dans l'histoire de la France, elle est à la fois importante et pour moi, t'es complètement terminé depuis longtemps.
Eh ben, voilà. on va y revenir durant cette heure avec vous. Patrick, vous allez nous raconter votre mai 68. Mais en 68, il y a eu d'autres mois avec d'autres événements. Les Rolling Stones chantaient « Sympathie pour le diable ». Stanley Kubrick présentait un film dont on parle encore quelques années après, 2001, « Odyssée de l'espace ». Alors, si vous aimez Stanley Kubrick, les Rolling Stones, les communistes, les jeunes, et si vous voulez savoir quel rôle exactement a tenu le brigadier, la carrière dans la répression et le passage à tabac d'étudiants un peu trop révolutionnaire à son goût, restez bien à l'écoute. Zoom Zoom Back, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, si vous prenez le train en marche, ce train rutilant, quasiment neuf, véritable Shinkansen de l'infotainment français, c'est Zoom Zoom Zen. Deux heures pour décrypter notre époque sans oublier d'en rire, sachant que le vendredi on enclenche la marche arrière pour remonter le temps à la découverte d'une année marquante de l'histoire. Aujourd'hui, zoom sur 1968. Michel Barnier passait son bac, pour de vrai. Oh ouais, Demis Roussos chantait Rain and Tears et, certainement pire que tout, Michel Barnier devait draguer sur Rain and Tears. Une époque qu'autour de cette table, nous ne connaissons hélas qu'à travers les documentaires et les livres, notamment ceux de notre invité, la mémoire de mai 68, Patrick Rothman, qui va nous dire notamment comment lui, il a vécu cette époque et si lui aussi a dragué sur Demis Roussos. Mathieu Noël. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Patrick, je vous présente mes joyeux acolytes, très excités aujourd'hui à l'idée de se replonger dans leur tube préféré de 68, Hey Jude, des de Beatles, pour Manon, la dernière valse de Mireille Mathieu, pour Quentin.
Je la connais pas.
Ah ouais, vous chantez pas, dis donc.
Oh, Quentin, ça fait bravo, tu as gagné. Tu vois,
ah, oui, celle-ci, tu la connais, oui. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Manon, 1968, c'était une dernière valse, mais c'était aussi une toute première fois.
Celle d'un inspecteur qui va devenir une série télé emblématique. Son acteur a été multi-récompensé pour ce rôle où il portait un trench beige en parlant de sa femme que personne n'a jamais vue. Je pense que vous avez deviné de qui il s'agit.
Navarro.
La première diffusion de Columbo. On en parle en fin d'émission.
Quentin, le vendredi, fini de vous les geler dans la rue à interroger des passants qui n'ont pas envie de vous répondre. Pour Zouzoubac, vous travaillez sur moquette, bien au chaud, ouais, au cœur des archives de l'INA.
Et c'est un spectacle fabuleux. Imaginez des heures d'archives de l'année 1968 que je trie pour vous. Et il n'y a pas eu que la révolte en France, il y a aussi eu l'assassinat de Luther King, celui du garde du corps de Delon et les Jeux Olympiques d'été à Mexico, entre autres. Je vous fais écouter une partie de 1968 dans la prochaine demi-heure.
Face à vous, Patrick, il reviendra sur la naissance d'un bébé tout mignon en 1968. Bonjour Karim Duval.
Bonjour, j'ai hâte de vous parler de la naissance de Marine Le Pen.
Carrément, ouais. C'est d'elle qu'il s'agit. Karim nous racontera donc la naissance de Marine Le Pen. Dans la foulée, on diffusera d'ailleurs une archive inédite dans laquelle on entendra Quentin Lui qui était à la maternité ce jour-là.
Tu es mon millésime. Moi, j'ai ma belle amie.
Déjà, je suis pas à l'origine.
Vous étiez déjà très enregistré
politiquement. Cette imitation.
La mémoire du cinéma, le Pierre Tchernia jeune, même si l'ironie de cette formule est vertigineuse. Thomas Croisière viendra nous raconter 1968 au cinéma. En fin d'émission, Charles Nouveau nous dira quel regard le Suisse porte sur les événements de 1968. Mais d'abord, Patrick Rothman, si j'ai bien compté, en 68, vous aviez 19 ans.
Exactement.
Vous étiez dans la rue ? Vous étiez où ? Vous étiez sur les barricades ? Vous regardez ça d'un peu plus loin ?
J'étais étudiant en histoire à la Sorbonne.
Ah bah oui, vous étiez bien passé alors.
J'avais un peu d'avance, donc j'étais en licence, ouais. Ah. Et le 3 mai 68, j'étais à la bibliothèque de la Sorbonne. J'ai vaguement entendu du barouf dans la, dans la cour. J'étais voir par la fenêtre et il y avait un tout petit groupe, en fait, 200-300 personnes qui étaient là.
Quand même.
Au milieu, il y avait un rouquin un peu joufflu. Dany, ouais. Qu'on appelait tous Dany, enfin plus tard, on Daniel Cohn-Bendit. Et puis la police est arrivée, et voilà, comme j'étais descendu dans la cour voir, ils ont embarqué tout le monde, et moi avec. Voilà, donc c'est comme ça que 68 a commencé. Et voilà, et donc j'ai vécu tous les événements étudiants, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais 68, c'est à la fois une révolte étudiante, c'est aussi une grève générale la plus importante de l'histoire française, et c'est aussi une crise politique, presque une crise de régime au sommet de l'État qui a été à deux doigts de s'effondrer. Moi, j'ai vécu, là, évidemment, le 68 du Quartier Latin, et j'ai fait toutes les manifs, tout ce qu'il fallait.
Et comment on fait justement, Patrick, pour ensuite, par la suite, vous avez fait tous ces documentaires, ces livres sur mai 68, comment on fait pour réussir à dissocier ce qu'on a vécu? Parce que j'imagine que c'est un souvenir forcément. Nos 19 ans à tous sont magiques, donc les vôtres au cœur de mai 68, vous avez forcément de la sympathie pour ce mouvement. Vous avez réussi à vous en dissocier pour pouvoir l'analyser froidement?
Oui. Oui, j'ai bien sûr de la sympathie pour ce mouvement, parce que j'avais 19 ans. Je suis encore aujourd'hui tout à fait heureux d'y avoir participé. J'imagine d'avoir 19 ans et de passer à côté de ça, c'est un peu tragique. Mais en même temps, je suis tout à fait lucide sur à la fois la grandeur et la misère de ce mouvement qui a charrié tout et son contraire, d'une certaine manière. Bon, donc, qui était à la fois un mouvement, disons, libertaire, de liberté, d'émancipation, une révolte de la jeunesse qui en avait marre des carcans moraux, et qui se révoltait contre ça. Et en même temps, c'est un mouvement qui a été, disons, chapeauté, manœuvré, par une petite avant-garde marxiste qui a collé sur ce mouvement des étiquettes, une interprétation qui est datée du 19e siècle. Bon, donc c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler et enfin de l'analyser, et qu'il faut toujours avoir ces deux aspects. Moi, quand j'ai fait les films, les livres et tout ça, c'était très important d'avoir vécu, parce que il y a des moments de 68 qui restent à jamais marqués dans ma vie, dans ma tête. Rue Gay-Lussac, qu'on a appelé la grande nuit des barricades, vous voyez des dizaines de milliers de jeunes de 20 ans comme moi qui hurlaient, une espèce d'impression de liberté, d'exaltation absolument incroyable. Ça permet de comprendre, même quand on a le recul après d'avoir fait des études d'histoire, etc., de comprendre la nature de ce mouvement, qu'il a charrié ce qu'il y avait de meilleur et ce qu'il y avait de pire.
On va y revenir ensemble, Patrick. Des artistes qui ont chanté mai 68, il y en a beaucoup, mais il y en a un qu'on adore dans Zoom Zoom Z, même si Quentin a un jour sali sa mémoire en reprenant Toulouse a cappella, c'est Claude Nougaro, Paris mai, sur France Inter.
Mais Paris mai Paris. Paris, mais Paris. Mais Paris, mais Paris. Le casque des pavés ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendit. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume, mon
pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume et piochant l'évasion d'un rossignol titan capable d'assurer le sacre du printemps. Mais Paris, mais Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon gris. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Mais Paris, mais Paris. Mais Paris, mais Paris. Et je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries. Je dépose l'aurore sur tes tuileries, comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi tes 6 millions de types. Ta vie à ras-le-bol me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeons. Intelligence blanche et grise religion. Paris, mais Paris. Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, ni manne, ni mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant. Mais Paris, mais Paris. Mais Paris. Le jeune homme harassé déchire ses cheveux. Le jeune homme hérissé arraché sa chemise. Camarade, ma peau est-elle encore de mise? Et dedans mon cœur seul ne fait-il pas vieux jeu? Avec ma belle amie quand nous dansons ensemble, est-ce nous qui dansons ou la terre qui tremble? Je ne veux plus cracher dans la gueule à papa. Je voudrais savoir si l'homme a raison ou pas. Si je dois endosser cette guérité droite avec sa manche gauche, avec sa manche droite, ses pâles oraisons, ses hymnes cramoisis, sa passion du futur, sa chronique amnésie.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
CRS SS, tagué probablement le jeune Bruno Retailleau sur les murs de son école en 68. 55 ans après, que reste-t-il de l'esprit 68art ? Zoom sur cette année charnière avec un témoin de choix. Le documentariste Patrick Rodman nous accompagne cet après-midi. Patrick, quand on parle de mai 68, on pense immédiatement à l'occupation de la Sorbonne, aux barricades dans les rues de Paris, on vient d'en parler. Mais est-ce qu'il y a eu un mai 68 dans les autres villes françaises ?
Beaucoup moins, mais il y a eu des villes où il y a eu une, à Lyon, par exemple, il y a eu des grosses manifestations. Mmh. À Nantes, il y a eu ce qu'on a appelé la fameuse commune de Nantes, mais plus ouvrière d'ailleurs qu'étudiante. Mmh. Enfin, il y a eu des Strasbourg, enfin, je sais plus tout, mais dans beaucoup de villes, il y a eu des mouvements. La grève générale a été partout, pas simplement à Paris, bien sûr. 7 à 8 millions de grévistes, donc ça a gagné partout. Et surtout, ce que j'appellerais, l'esprit de 68, cette espèce de chose impalpable, indéfinissable, que les gens aspiraient à autre chose, ils ne savaient pas à quoi ils aspiraient.
Mais ils aspiraient à autre chose. Quentin.
Mais justement, peut-être qu'on peut rappeler le contexte de l'époque, vous l'avez nommé tout à l'heure, mais De Gaulle est au pouvoir.
Le paradoxe, c'est que ce mouvement de 68 survient dans une France prospère.
Et oui, c'est ça qui paraît bizarre aujourd'hui.
Vous avez quand même, depuis ce qu'on appelle les années De Gaulle, qui pourraient d'ailleurs les années Pompidou, c'est les 10 années où la France a le plus changé. Elle a plus changé du cours de ces 10 années, qu'on prédit 68, qu'au cours des 50 ans qui avaient précédé. L'exode rural, l'urbanisation, absolument, la modernisation, la construction. Vous savez que dans ces années, on construit en France un collège par jour ouvrable. 200 par jour. Par an. 200 par an. Voilà. Donc, c'est pour donner une idée. Et le phénomène massif qui permet de comprendre 68, sans faire de la sociologie de bazar, c'est l'arrivée à l'âge adulte, en fait, de la génération du baby-boom. C'est l'éruption de millions de jeunes dans la société française. Un tiers des Français ont moins de 20 ans. Avec cette donnée, on comprend.
On comprend mieux,
oui. 8 millions entre 16 et 24 ans. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que ça a une incidence sur...
c'est démographique, mais 68.
C'est démographique, absolument. C'est une révolution démographique.
Mais 68, c'est aussi des slogans CRS, SS, il est interdit d'interdire, l'imagination au pouvoir, qu'on voit encore aujourd'hui, que la jeunesse reprend aussi aujourd'hui. Ils venaient d'où ces slogans? Qui les imaginait? C'est vous, c'est la jeunesse?
Alors, parmi ces slogans, il y en a qui sont particulièrement débiles. CRS, SS, ouais, mais ça n'empêchait pas tout le monde de les crier parce que c'était rythmé.
Vous-même, vous l'avez crié, Patrick?
C'est bien possible. J'étais assez con pour ça, oui. Non, mais bon, il faut se remettre dans ce contexte quand même. C'est que on rigole, mais bien sûr, c'est normal. Mais ça a été quand même très violent, 68. Très, très violent. Et la répression des manifestations et les manifestants eux-mêmes, c'est pas des enfants de cœur, les affrontements étaient violents, il y avait des centaines et centaines de blessés. C'était une époque où les gars qui étaient ramassés dans les manifs étaient tabassés au centre Beaujon, etc. Ils arrivaient entre deux et de ça m'est arrivé, donc je peux le dire, de CRS qui tapaient dessus. Donc aujourd'hui, ça provoquerait des cris d'horreur de Libération et Mediapart, mais disons que c'était vraiment un contexte très tendu. D'où ce slogan qui répondait, en fait, d'une certaine manière,
à la violence
des affrontements. Pour répondre à votre question, de manière générale, et ça c'est un aspect qui est pas souvent, dont on parle peu de 68, il y a une très très grande créativité artistique en 68. Il y a les slogans, il y a les dessins, les affiches des Beaux-Arts avec des peintres comme Gérard Fromanger, etc. Regardez les affiches de 68, elles sont absolument formidables. D'ailleurs, elles ont inspiré la pub pendant des années et des années. Donc, c'est un mouvement qui est créatif, ludique, plutôt rigolo. Et en général, les gens se marient bien, d'une certaine manière.
On continue de revenir sur mai 68 avec Patrick Rodman. Lui, chaque fois qu'il débarque, avec son sourire ultra bras et un panier de chouquettes pour les soudoyer, un frisson d'excitation parcourt les dames de l'INA, qui ne sont évidemment pas que des dames, mais des hommes et des femmes, tous très sensibles au charme de Quentin, lui, qui n'a pas son pareil pour faire bosser les autres à sa place. Et les archivistes, en plus, le vendredi,
oui,
maintenant.
Oui, 5 avril 1968, un jeune présentateur ouvre le journal de 20h de France Inter.
Jean-Pierre Elkabbach, présentateur Actualité.
C'est sans doute la fin d'une époque. La haine et la violence prennent de vitesse l'amour et l'espoir que prêchait le pasteur Luther King. Le président Johnson pourrait assister mardi à Atlanta aux obsèques du pasteur King.
Le 4 avril 1968, à 18h01, alors qu'il se trouve sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis, Martin Luther King est assassiné d'une balle dans la gorge.
La police enquête. Elle a le portrait robot de l'assassin du pasteur King. L'effervescence règne dans la communauté noire des États-Unis. Les autorités redoutent une explosion raciale comme le pays n'en a jamais connu.
Son assassin, James Earl Ray, est un ségrégationniste blanc qui sera arrêté à l'aéroport de Londres alors qu'il a réussi à fuir les États-Unis. Les dernières paroles de Martin Luther King furent pour le musicien et saxophoniste Ben Branch, qui devait se produire ce soir-là lors d'une réunion publique à laquelle assistait Martin Luther King. Ben prévoit de jouer Precious Lord, take my hand. Seigneur, prends ma main. À la réunion de ce soir, c'est ce que dit Martin Luther King. Joue là, de la plus belle des manières. J'ai trouvé ça magnifique, alors je le partage avec vous. En France, maintenant, nous sommes le 29 avril 1968 et sur la première chaîne de l'ORTF, une première.
C'était il y a très 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 longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Shadok. Il y avait des Shadok de deux sortes. Des Shadok avec des pieds en bas qui vivaient au-dessus de la planète et des Shadocks, avec des pieds en haut qui vivaient de l'autre côté.
Le premier des 208 épisodes des Shadocks avec l'inoubliable voix de l'acteur Claude Pieplu. En octobre 1968, un frisson pour ce fait divers.
Le 1er octobre 1968, un chiffonnier découvre, dans cette décharge publique d'Elancourt, le cadavre d'un inconnu enveloppé dans une housse de nylon et un sac de jute. Une semaine plus tard, on apprend par des indiscrétions venues des milieux artistiques que la victime est un Yougoslave âgé de 31 ans, Stéphane Marković, ami et garde du corps d'Alain Delon.
Tout Paris en parle, Delon est interrogé à Saint-Tropez alors qu'il tourne la piscine. Il dit qu'il a rejeté Marković de sa vie, ce jeune clandestin yougoslave qui devenait trop envahissant. Pourtant, son dernier domicile connu était au 22 avenue Messine, chez les Delon. Parallèlement, une rumeur commence à enfler. Stéphane Marković aurait été assassiné parce qu'il faisait chanter des personnalités prises en photo lors d'une partie fine. Une affaire énigmatique qui remontera même jusqu'aux hautes sphères du pouvoir car le nom de Claude Pompidou est cité. Claude Pompidou, la femme de Georges Pompidou, qui fait alors figure de favori pour succéder un jour au général de Gaulle. Vous voyez l'ambiance. En 1968, ce sont aussi les Jeux Olympiques à Mexico et Yves Mourouzi nous raconte.
Il n'y a pas eu d'été chaud comme l'année dernière, mais les Noirs ont trouvé dans les Jeux Olympiques une nouvelle possibilité de s'exprimer. Et les Américains ont réagi. Tommy Smith et John Carlos, les vainqueurs du 200 mètres qui ont brandi leur point noir sur le podium, sont expulsés de la capitale olympique. Une telle décision, bien sûr, ne pouvait que provoquer des réactions.
Le 16 octobre 1968, Tommy Smith et John Carlos montent sur le podium des JO, le poing levé, pour contester la ségrégation dont sont victimes les personnes noires aux États-Unis. L'image fait le tour du monde. Le CIO déclare qu'une protestation concernant la politique intérieure d'un pays n'a pas sa place au sein d'un événement apolitique tel que les JO. En réponse à leur action, il ordonne à Smith et Carlos soient suspendus de l'équipe américaine et bannis du village olympique. Les deux athlètes sont suspendus puis exclus à vie. En mai 1968, le RTF se met en grève. On y entend, comme aujourd'hui, que de la musique. Mais comme il est hors de question de passer des morceaux en lien avec les manifestations, on entend ça. La cavalerie de Julien Clerc qui fait partie de la courte playlist jouée en mai et juin 68. Il le dit lui-même, c'est le premier morceau qu'il fait connaître car il n'arrête pas de passer à la radio. Je termine avec une phrase des vœux du général de Gaulle qui a traversé une année, disons, délicate.
Portons donc en terre les diables qui nous ont tourmentés pendant l'année qui se termine.
L'année qui se termine et qui me permet de refermer ce complètement aux archives.
Merci Quentin et surtout merci à ceux qui ont vraiment fait le travail. Émilie Lacot et Anne de Labo, il faut quand même les
oui,
citer.
Oui, elles m'ont aidé, elles m'ont aidé. Ouais.
Patrick Rothman, Julien Clerc, il doit sa carrière à mai 68
Je crois que le disque de Julien, La Cavalerie, sort le 9 mai 68.
Ah, donc vraiment.
J'en ai parlé
très
avec
bon
lui.
Timing. Ouais. Très bon timing. Ouais,
parfait.
C'est un timing. Non, parce que ça, en même temps, c'est comme tout s'est arrêté, il n'y a pas eu de vente, etc. Mais ça, effectivement, le film, ouais. Le disque a marché. Puis après, à la rentrée, il était en première à l'automne, en première partie. Non, pas juste après, avec de Gilbert Bécaud. C'est comme ça qu'il a commencé. Ouais.
Alors, Patrick Orban, qui dit mai 68, dit colère, émeute, violence, mais pas seulement. N'est-ce pas, Karim Duval ?
Eh oui, les amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler de cet heureux événement qui est venu adoucir l'année 1968, la naissance de Marine Le Pen. Vraiment, je voudrais que l'on active le mode gouzi-gouzi-gouzi. La France est en ce moment dans un mood d'ouverture. C'est un team building géant. Alors, on y va, à trois, tous ensemble. Même vous, Patrick Rothman, oubliez l'historien, le documentariste. 1, 2, 3, gouzi, gouzi, gouzi. Ah, merci de m'avoir suivi. Ça fait plaisir. Solitude. Alors,
voilà,
penchons-nous.
Au moins, l'héritage de 68.
Oui, oui.
Penchons-nous sur le berceau de bébé Marine, toute pouponne, toute belle. Pas sur le personnage Marine Le Pen fabriqué par les médias. Parce que qu'est-ce qu'un mélanome si ce n'est un grain de beauté qui a trop pris la lumière? Émervillons-nous de ce beau grain de beauté irradié par l'amour paternel, par ce soleil de papa qui réchauffe la peau, cette voix ronde, n'est-ce pas?
Oh non.
Parce qu'il est toujours imaginé. Il s'est toujours imaginé dans la peau de Louis Armstrong qui chante « I see trees of green, red roses too ». Bon, faut peut-être fact-checker cette information, mais revenons à ce grain de beauté. Ce petit point, commencement de tout, sur cette nouvelle page blanche de l'histoire, au lendemain des événements de mai, 5 août 68, naissance de Marine Le Pen, petit bout de chou dépourvu de quenottes pour prononcer correctement sucette, islamo-gauchiste ou schutstaffel. Petites oreilles bercées par les comptines. Ah si le brave Abdelkader revenait en Algérie. Il serait heureux, Abdelkader, de voir comme elle est jolie. Petits yeux bleus, oui, ils sont bleus. Et oui, j'ai tapé Marine Le Pen couleur yeux dans Google. Je suis allé dans Google Images et j'ai zoomé sur les photos de Marine Le Pen après avoir accepté les cookies. Et je reçois des pubs pour des sites de rencontres chelous, genre l'amour, ça tient à rien. Ok, c'est pas grave. Petits yeux bleus, disais-je, qui le 16 octobre 68 vont voir deux athlètes à la télé sur un podium à Mexico, noir. Hein. Papa, qui fait manger sa fille, ne peut pas changer de chaîne, alors il dit « Allez ma petite, une cuillère encore !» Et il lui fait la blague de la moustache de soupe sous le nez, hein, comme tonton Dolphy. Mais Marine n'a Dieu que pour ces deux athlètes noirs, deux beaux athlètes. Si ça se trouve, elle était HPI et elle a lâché un « comme papa !» Mais non. À deux mois, Marine distingue-t-elle seulement les couleurs? Non, elle voit deux humains, c'est tout. Hein, Tommy Smith et John Carlos qui lèvent le bras, le poing serré. Alors elle les imite dans son couffin, elle lève le bras, le poing serré. Et papa est au bord de la syncope, il est en OAS, en PLS, pardon. Alors sans prendre de gants, il lui dit « Ouvre ta petite mimine, oh, non, la main bien tendue, voilà, montre la direction, loin. » Parce qu'il voit, il sent, il sait que son parti verra le jour et que plus tard, il sera dirigé par sa fifille adorée. Une chef, une vraie, qu'on a dans le slip, ce sera un parti féministe. Parce que c'était ça, l'esprit 68. Et si les choses ne sont pas exactement passées comme ça, on peut invoquer l'indulgence du papa qui dira certainement que c'est juste un détail de l'histoire.
C'est une vision intéressante de 68. Vraiment, on l'avait assez iconoclaste.
Il faut regarder la vie à travers les yeux d'un bébé.
Vous avez raison. Merci Karim Duval. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zoom. Et on continue de zoomer sur 68 avec notre invité Patrick Rothman. Qu'est-ce qu'on allait voir au cinéma cette année-là? Thomas Croisière a la réponse. Et qu'est-ce qu'on regardait à la télé cette année-là? Ça, c'est Manon qui a la réponse. On regardait ça. Eh oui, comme Marine Le Pen, Columbo naissait en 1968. Mais comme le générique de cette série culte ne fait pas partie de la playlist d'Inter, on se retrouve juste après Orion Sun, Mary Jane sur Inter.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Vous écoutez Zoom Zoom Back le vendredi de 17h à 18h. On revient sur une année phare de l'histoire. Aujourd'hui, cette année à laquelle l'excellente hebdomadaire JD News n'a étrangement pas encore consacré de dossier spécial. 1968. Les Beatles chantaient Revolution et notre invité tenait tête au CRS. Les retrouvailles en régie avec Cyril Lacarre, notre Red Chef, ont d'ailleurs été houleuses. Le documentariste Patrick Rothman est notre invité. Patrick, est-ce que vous êtes fier d'être ce qu'on appelle un 68-art ?
Bon, il n'y a aucune raison d'être fier ou pas fier. Il se trouve que par des circonstances qui me dépassent, j'avais 19 ans, mais en 68, j'étais étudiant et j'étais à Paris. Donc voilà, j'ai été dans ce mouvement. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier de manière comme un historien, par le film, par le livre, etc., dans les 20 ou 30 ans qu'on suivit, ce mouvement qui est passionnant, intéressant, l'un des plus puissants. Parce que je pense, quand on parle de 68, il faut comprendre, c'est pas simplement le mois de mai, mais 68, le mai 68, est l'épicentre d'un mouvement de transformation culturelle, sociale de la société qui commence dans le milieu des années 60, qui va se poursuivre jusqu'à la fin des années 70 et qui est un mouvement extraordinairement puissant qui en fait va changer profondément la société française. Et le changement le plus important, je pense qu'il y aura l'occasion d'en reparler, c'est le mouvement des femmes qui apparaît après 68 d'une certaine manière, mais qui va être absolument déterminant dans le bouleversement de la société française.
On n'oublie jamais une première fois, nous disait Quentin en se rappelant du jour où il avait porté pour la première fois en public son blouson Valentino Rossi, qui avait initié sur X le hashtag « plutôt mourir que porter ça ». Aujourd'hui, Manon, comme vendredi, vous revenez sur une toute première fois survenue, donc logiquement en 1968.
États-Unis, le 20 février 1968, un téléfilm est diffusé sur la chaîne NBC.
Ohio, Lieutenant Columbo, police.
Cette voix ne vous dit peut-être rien et pourtant, c'est celle de l'acteur américain Peter Fall qui, pour la première fois, incarne un inspecteur qui va devenir culte, Columbo. Nous, on le connaît plus dans sa version française, doublée par Serge Sauvion.
Oh non, docteur. C'est impossible, vous étiez en voyage.
Mais avant que Columbo n'arrive chez nous en 1972, il fait donc ses débuts 4 ans plus tôt dans le téléfilm intitulé Prescription Murder, inculpé de meurtre. C'est la troisième tentative des créateurs, William Link et Richard Levinson, de donner vie à leur inspecteur Columbo. Ils avaient déjà tenté 2 fois, mais sans Peter Falk au casting. C'est donc en 1968 que Link et Levinson décident de retenter leur chance à la télé, mais cette fois-ci avec un gros changement. Le rôle principal, l'inspecteur Columbo, sera Peter Falk. Et puis, le téléfilm va tout de suite mettre en place tous les éléments qui feront le succès de Columbo. L'action qui se déroule en Californie, les coupables qui sont toujours des nantis qui se pensent intouchables, le style de l'inspecteur évidemment, un père beige et cigare à la bouche, son caractère un peu gauche mais très malin, et puis les nombreuses allusions à sa femme que l'on ne voit jamais.
Dites, vous n'auriez pas de quoi écrire, docteur ? Ma pauvre femme me donne un crayon tous les matins, mais je ne sais pas ce que j'en fais.
William Link et Richard Levinson ont aussi envie de twister la narration classique des thrillers. En général, on suit un flic qui va chercher qui est le coupable pendant tout l'épisode. Le spectateur est donc tenu en haleine avec du suspense. Sauf que Columbo est construit dans l'autre sens. L'histoire commence par suivre le coupable en train de perpétrer son crime. Du coup, le spectateur est complice et sait pendant tout l'épisode qui il est. Ce qui va les passionner, c'est de savoir comment Columbo va réussir à le coincer. C'est sur ce format qu'a été réalisé le téléfilm. Durant tout le début du film, on assiste au crime orchestré par un mari qui tue sa femme avec la complicité de sa maîtresse. Columbo ne va arriver qu'au bout de 30 minutes de film. C'est long pour voir le héros rentrer en scène. Ça aussi, c'est une spécificité de la série. S'ensuit un jeu du chat et de la souris entre lui et le coupable. L'inspecteur se fait passer pour plus bête qu'il ne l'est jusqu'à le démasquer. Columbo est né. Le téléfilm est un succès pour la chaîne, si bien que NBC et Universal veulent absolument adapter Columbo en série. C'est pour ça que le 15 avril 1971, le premier épisode de Columbo version série est diffusé sur NBC. Et à l'époque, il est réalisé par un tout jeune réalisateur, pas encore très connu, Steven Spielberg. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a apporté chance à la série. En tout, Columbo compte 18 saisons et 69 épisodes avec des guests de renom comme Jamie Lee Curtis, Kim Cattrall, Leonard Nimoy, John Cassavetes ou encore Johnny Cash. Un véritable succès d'audience dans le monde, mais aussi salué par les critiques. La preuve, Peter Falk a gagné 5 Emmy Awards pour son rôle.
And the winner is... Peter Falk, Columbo.
Yeah, it really is. It's terrific to win. I'm trying to figure out some way to appear humble.
J'essaie de trouver un moyen de rester humble. Ça, c'était en 1972. Peter Falk est mort depuis, mais son héritage reste intact puisque Columbo vit toujours sur nos écrans. Tous les samedis soirs, un épisode est diffusé sur TMC et ça reste un petit succès d'audience puisque la série compte en moyenne 650 000 téléspectateurs tous les week-ends. Et pour ceux, comme Cyril, qui ont envie de se remater la série d'une traite, et ben l'intégrale est dispo sur Prime Video.
Merci Manon pour ce petit conseil. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous sommes de retour non pas en URSS mais en 1968 avec un grand témoin de cette année mythique, le documentariste Patrick Rothman. Patrick, en 2007, Nicolas Sarkozy disait qu'il voulait liquider l'héritage de 68. Est-ce que vous aviez compris de quoi il parlait à l'époque ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, ce que j'ai pas compris, c'est que cet héritage était liquidé depuis très longtemps. Voilà. Donc, ça, c'est des utilisations
politiciennes
de 68. Encore une fois, il faut le débarrasser de tous ces oripeaux idéologiques et regarder ce que c'était dans toutes ses composantes. À la fois positive et négative.
Aujourd'hui, vous devez quand même être un peu horrifié de l'époque dans laquelle on vit, parce qu'à l'époque, vous avez vécu, vous, une poussée libertaire, émancipatrice, et là, on a l'impression que le balancier est parti un peu dans l'autre sens, avec le retour des valeurs morales, et vous sentez ça dans l'air du temps ?
Oui, ça existe. En même temps, il faut quand même voir que la société d'aujourd'hui, malgré ces reculs, est beaucoup plus permissive, libérée et libertaire que la société d'avant 68. Il n'y a aucune comparaison. Parce qu'on était dans une société d'aujourd'hui qui ressemble au niveau de l'ordre moral, de l'autorité, à ce que c'était avant 68. Je pense qu'il y aurait beaucoup de monde dans la rue.
Et vous pensez donc que peut-être quelque part, c'est les germes de 68, qui, peut-être on est allé trop loin du côté de la libération des mœurs, et qu'aujourd'hui le retour de balancier est presque logique ?
Ouais, trop loin, j'en sais rien, parce que quand on parle de libération des mœurs, bon, c'est la conscience individuelle. Mais évidemment, tout ce qui relève d'atteinte à autrui, notamment dans les années 70, a commencé à y avoir des textes sur une certaine complaisance avec la pédophilie. Bon, ça m'a toujours fait horreur. Donc ça, alors on peut dire que ça fait partie de 68. Je crois pas. C'est pas un héritage de 68. L'héritage de 68, c'est qu'on était une société corseté, où les femmes n'avaient pas le droit de l'ouvrir, où elles étaient mises en situation dominée. La pilule, la fameuse pilule, la loi Neuwirth, votée en décembre 67, il n'y a pas eu de décret d'application avant 72. Relisez le journal officiel des débats à l'Assemblée nationale sur la loi Neuwirth, c'est absolument terrible, c'est affolant ce qu'on a pu entendre. Il s'agissait de quoi ? De simplement un moyen de contraception. Bon, ça donne, c'est le symbole de ce qu'était cette société. Donc, ce qu'a provoqué 68 et la suite, c'est une libération fantastique, formidable, du mouvement des femmes. Sûrement, il y a eu évidemment des excès, des gens qui ont été trop loin, etc. Mais, comme toujours dans ce type de mouvement, il faut pas considérer un petit aspect en disant voilà, c'était ça 68. C'est comme dire c'est RSSS, c'est 68. C'est une partie de ces 68, une partie débile, mais qui peut s'expliquer ou se comprendre.
Est-ce Manon que la différence entre 68 et aujourd'hui, c'est le rapport des jeunes avec la politique, vous trouvez ?
Voilà, une très grosse différence. Parce que là, pour comprendre ce qui s'est passé en 68, c'est que d'abord c'était un mouvement qui est une espèce d'utopie qui était internationale. C'était ce que je disais tout à l'heure sur la jeunesse, c'était international. Partout dans tous les pays d'Europe occidentale, il y avait une éruption de la jeunesse dans les sociétés. Et n'oubliez pas qu'il y avait la guerre du Vietnam. Et ce qui a déterminé l'engagement de moi en particulier, par exemple, c'était la guerre du Vietnam. Parce que ça a été la première et la dernière guerre télévisée. Parce qu'on voyait des horreurs, en fait, des bombardements américains. Et quand vous voyez des populations entières qui sont soumises au napalm, etc., cette guerre de l'Amérique contre le Vietnam a suscité une espèce de d'indignation morale, plus que politique mondiale, morale. Oui. C'était pas possible qu'un la première puissance du monde écrase ces mêmes paysans vietnamiens, etc. Et donc, du coup, il y avait cette dimension d'utopie, il faut changer ce monde qui, quand même, c'est le combat du bien et du mal. C'est un simplisme, évidemment. Toutes les choses sont toujours beaucoup plus compliquées que le bien et le mal. Mais quand on a 20 ans, c'est une grille d'interprétation qui peut marcher.
Lui, en 68, il en était déjà à sa troisième greffe capillaire. Preuve d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'en Turquie qu'on fait de belles choses. Pour reprendre le chanteur engagé Jean Mérand, 68, c'était hier pour lui aussi. Alors j'ai demandé à Thomas Croisière de nous raconter 68 au cinéma.
1968 est une année rêvée pour une mixtape, car c'est The Sound of Silence de Simon & Garfunkel.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again.
Qui ouvre le lauréat de Mike Nichols et accompagne à l'aéroport la tronche de Benjamin Braddock, pas pressé de rentrer chez ses parents pour fêter son diplôme et se faire vamper par Madame Robinson.
Madame Robinson, vous essayez de me séduire.
La voix que vous venez d'entendre est celle de Patrick Devers, qui alors, inconnu, prêta sa VF à Dustin Hoffman. Mais 68, M.I.S., c'est aussi One Plus One. Documentaire expérimental de Jean-Luc Godard. Alors déjà, documentaire, tu te dis « mouais », expérimental, tu dis « ok », tu ajoutes « Jean-Luc Godard », tu sais que tu ne vas rien capter pendant 1h40. En revanche, tu suivras en fil rouge la démoniaque création de Sympathy for the Devil, incroyable document où tu vois les pierres qui roulent dans une petite cabine d'enregistrement pousser des... Comme la même année, tu observes dans le Pacha de Georges Lautner, Serge Gainsbourg enregistrer son
écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un coup.
C'est Jean Gabin qui demanda à l'homme à tête de chou de mettre en musique ce polar dialogué par Audiard où on ne cause pas, on conversationne.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Comme tournèrent les Beatles pour conclure la merveille d'animation psychédélique qu'est Yellow Submarine. Yellow Submarine, Yellow Submarine. Le magazine Rock et Folk écrivit à l'époque « Le type qui a fait ce film nous offre là une super tranche de génie délirant !» Oui, parfois, je mets ça, il y a de petites imitations. Et si les grands Bretons ont John Lennon et Paul McCartney, nous Gaulois avons Bernard Lavalette et Jacques Balutin. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, de cuillère de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif.
Oh, je vais en mettre trois.
La recette du pudding à l'arsenic tiré d'Astérix et Cléopâtre, film d'animation signé Uderzo et Goscinny qui traverse les générations grâce à ses 58 diffusions télévisuelles en 56 ans, ce qui en a fait un énorme tube cathodique. Mais le tube cinématographique de 1968 est pour moi...
Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel.
Les Moulins de mon cœur, interprété par Noël Harrison, composé par Michel Legrand et récompensé aux Oscars. L'unique trophée que reçut l'affaire Thomas Crown, miracle de Norman Jewison, qui avec ses petits split-screens, sa partie d'échec et ce baiser, à l'époque le plus long de l'histoire du cinéma entre Steve McQueen et Faye Dunaway, imprima à jamais ma rétine, tandis que résonne encore dans mon oreille le rire de ce gentleman cambrioleur de Thomas Couronne. Vive le rire et...
Vive le cinéma !
De 1968.
Merci Thomas Croisière pour ce voyage dans le cinéma de 1968. À vos côtés, Thomas, c'est la première fois qu'on le voit sans maillot de foot. Ça fait tout drôle. Bonjour Charles Nouveau.
Bonjour Mathieu.
Alors, sachant que vous êtes comme moi franco-suisse, parler d'émeutes, ça doit être un peu exotique pour vous.
Oui, c'est vrai, je suis suisse, mais vous savez, je me parisianise de plus en plus. Pas plus tard que ce matin, j'ai traversé une rue à côté du passage piéton.
Non, pas vous Charles.
Oui, oui.
Viva la révolution. La chronique de Charles Nouveau, c'est juste après James Brown, autre tube de 68, ça swing un peu moins que la dernière valse de Mireille Mathieu, mais c'est pas mal quand même. On écoute Say It Loud sur France Inter.
Say it loud.
time to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share.
Cette semaine, comme chaque vendredi, nous avons demandé à l'excellent Charles Nouveau de nous parler avec pertinence d'un sujet qu'il connaît mal. Mais ça, Charles Nouveau, ça ne l'effraie pas parce que Charles Nouveau n'a peur de rien. Charles Nouveau vient d'apprendre qu'il peut écrire lui-même ses lancements. C'est à vous, Charles.
Merci Mathieu, pas pour ce que vous venez de lire, même si je sais que vous le pensez
aussi
et ça me touche. Mais pour ce sujet, les émeutes de mai 68, sujet qui m'a permis d'en apprendre un peu plus sur quelqu'un qui m'a déjà demandé plusieurs fois
« Ça passe quel jour déjà ta chronique du vendredi ?»
Mon père, en mai 68, il était lycéen parisien. En octobre 2024, il est retraité suisse. Deux salles, deux ambiances. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un qui dort avec le combo t-shirt sans caleçon a déjà pu être rebelle par le passé? Est-ce que quand il avoue « Ah, on a un peu foutu le bordel !» il dit « on » légitimement? Ou est-ce que c'est un « on » comme quand Cyril Lacarrière parle de l'Olympique de Marseille pendant les périodes où ça gagne? Eh bien, contre toute attente, j'apprends qu'il a déjà lancé un pavé sur des CRS. Quoi ? Qu'entends-je ? Pavé sur les forces de l'ordre ? Pavé dans la mare de mon respect filial ? Pas vous, père ! Pas sur la compagnie républicaine de sécurité. Un pavé sur des CRS alors qu'aujourd'hui, ça lâche en toute détente des « Ah, les jeunes ne respectent plus l'autorité comme avant !» Omar Sharif aimait les hippodromes et moi, j'adore les hypocrites. Que BFM se rassure, leur travail est apprécié, leur travail est suivi. Alors bien sûr, le pavé, c'est la forme, mais le fond, c'était quoi? Alors, je poursuis mon interrogatoire, tard Élise Lucet, je me rends compte que mon père avait encore les grandes lignes des revendications de l'époque, mais ça semblait quand même un peu flou. Est-ce que c'est parce que ça fait 56 ans? Ou est-ce que c'est parce que déjà à l'époque, c'était pas clair dans sa tête? Je continue de gratter et j'apprends tout à coup que
bah, on aimait bien aller à la Sorbonne parce qu'on nous avait dit que des étudiantes suédoises avaient fait le déplacement.
Ah, elle est belle, l'émancipation de la jeunesse. Vous constaterez au noir de mes sourcils, Mathieu, que c'est pas avec une suédoise qu'il a fait sa vie, mon père. C'est donc à 34 ans que j'apprends que mon paternel a déjà convoité d'autres femmes que ma mère. Ce sujet ne m'aura pas épargné. J'ai pas besoin d'expliquer à quel point les émeutes de 68 et leurs revendications étaient importantes. C'est dans vos manuels d'histoire, c'est exploré dans l'œuvre de notre invité. Il y a des jeunes qui ont laissé de la sueur, des larmes et du sang parce qu'ils croyaient vraiment en un idéal. Et il y en a d'autres qui étaient là, eux aussi, mais plus pour la vibe, en fait, hein, sans forcément apporter une valeur ajoutée. Un peu comme Thomas Croisière dans cette émission. C'est beaucoup moins noble, mais je trouve ça quand même un peu touchant et je trouve qu'on ne leur rend pas assez hommage. Ils ont eu raison d'être là. En plus, c'était en mai. Il devait faire bon. Pourquoi vous croyez que c'est le printemps de Prague, le printemps arabe ou mai 68? C'est convivial, tu peux t'habiller léger, peut-être pas en t-shirt sans caleçon, ou alors t'as vraiment pas peur du flashball. Enfin bref, papa, t'y étais, bravo. Il paraît que cette année-là, le bac, ils l'ont pratiquement donné, pas de bol. Lui, il le passait l'année d'après, où soi-disant l'académie s'est clairement vengée sur les notes. En tout cas, c'est la seule explication qu'il a trouvée au fait que j'ai eu une meilleure moyenne que lui. No pasaran, papa, et à dimanche pour le risotto aux truffes.
Ah, le risotto aux truffes, je vois qu'effectivement on a bien changé. Merci Charles Nouveau, et j'embrasse ma maman qui a eu son bac en 68 et elle m'a toujours dit qu'elle l'avait eu, effectivement, qu'ils lui ont donné. On vous retrouve, c'était distribué, voilà, voilà, c'est comme ça qu'elle l'a eu. On vous retrouve, Charles, la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et en spectacle tous les samedis à la Nouvelle Scène. C'est à Paris et dans toute la France à partir de l'année prochaine. Là, effectivement. C'est parti pour une grande tournée.
Pour une grande tournée, vous n'êtes pas prêt.
Non, je ne suis pas prêt, là, je vous confirme, je ne me déplace pas déjà. Merci Patrick Rodman de nous avoir fait revivre 68 et plus spécialement mai 68. Je rappelle, entre autres, un mai 68 raconté à ceux qui ne l'ont pas vécu et co-réalisé avec Virginie Linhart le documentaire mai 68, 10 semaines qui ébranlèrent la France. Merci encore Patrick d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci.
On était honorés. Merci à tous les amis, ceux qui étaient en studio pour célébrer l'hymne à la liberté que restera pour toujours l'année 68, Manon, Quentin, Karim, et ceux qui ont préféré rester boudés en régie pour lire JD News de Laurence Ferrari, Cyril Lacarrière. De gros bisous à tous ceux qui nous aident à préparer cette émission au quotidien. Florence Zimanac, Alexis Alacour, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Valentin Gelsomino et Gérald Darnaud. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana. À la technique, Titouan Labarre. Zoom Zoom Zen revient lundi dès 16h et on zoomera sur la devise du regretté Aymeric Lomprey. Trop d'hygiène, tu l'hygiène. Zoom sur le microbiome ou comment parfois les microbes peuvent être nos amis. D'ici là, lavez-vous quand même.
Zoom Zoom Zen.